Robert Blondin ici, bienvenue à l'aventure.
Aujourd'hui, l'aventure de Michel Barrette. Michel Barrette, bon, c'est un ami, tout simplement, d'abord et avant tout, mais c'est aussi un fabricant et un marchand d'étonnement. Bizarre. Mais c'est vrai, ça s'appelle comme ça, c'est ça que tu fais.
Ben oui, c'est ça que je fais.
T'es étonnant parce que tu fais de l'étonnement.
Oui.
Quelle sorte d'étonnement tu fais, là?
Ben, en fait, je fais du spectacle, surtout, toutes sortes de spectacles, la variété. J'ai commencé, en fait, à faire du spectacle jeune public. Ensuite, j'ai fait des spectacles dans la rue. Ensuite, du cirque. Ensuite, j'ai fait... Depuis quelques années, je fais des trucs musicaux, dans des trucs très pointus, musique contemporaine, des affaires que personne ne veut écouter. Encore une fois, pour le grand public, le jeune public, on essaie de dépointer un peu le travail, mais le plaisir est très intéressant, parce qu'en fait, c'est une forme musicale spéciale.
Reprends-moi ça du début, là. Tu dis, au début, c'est des spectacles de rue.
Oui.
Quand tu as commencé, là.
J'ai commencé, oui. En fait, ce qu'on voulait faire au tout départ, c'était que la plupart des comédiens qu'on connaissait, qu'on voyait faire, exploitaient beaucoup le verbe, mais pas beaucoup le corps. Donc, avec des copains, on a décidé qu'on voulait aller à l'école de théâtre. Puis à ce moment-là, tu avais les gens du Grand Cirque Ordinaire qui sortaient de cette école-là puis qui disaient à tout le monde qui voulait l'entendre, « Allez pas là, c'est une école morte, il y a pas, tu sais, c'est pas... » Puis c'est là qu'ils ont commencé, eux autres, à faire de l'impro puis à décloisonner un peu l'affaire. Nous, on était des jeunes sportifs, tu vois, je jouais au tennis, puis... badminton, puis football, puis etc. Ce genre de sport que tu fais quand t'es jeune, puis que t'as des copains, puis t'as un parc pas loin. Et le corps, pour nous, était quelque chose de très, très important. C'était aussi important dans notre esprit de signifier quelque chose avec le corps ou de dire quelque chose avec le corps qu'avec la parole. Donc...
Sans tomber dans le mime pour autant.
Oui, ben c'est ça. C'est ça qu'on a trouvé. En fait, on cherchait autour de ça. Puis là, ben on lisait Artaud, on lisait... on s'informait sur ce qui se passait un peu des choses un peu à l'extérieur de ce qu'étaient les sentiers battus, mettons, disons, entre guillemets. Et t'avais le San Francisco Mime Troupe qui faisait des choses, t'avais le Living Theater qui faisait des choses, t'avais ce type de proposition là au théâtre qui, ou Gotovski ou tu vois qui était complètement en dehors du théâtre entre guillemets classique
conventionnel
avec ouais. Oui, c'est ça. Alors nous, c'était ça qui nous intéressait plus, c'est-à-dire de prendre de dire quelque chose avec le corps. Et là, on cherchait à Montréal qui pouvait nous aider à nous donner des cours de je sais pas quoi, mime, danse, whatever. On est tombé sur Claude Saint-Denis. Qui était mime, pantomime, etc. Et concours de circonstances étonnant, on est... à ce moment-là, son adjointe maîtresse et meilleure élève obtient une bourse pour aller à Paris chez Étienne Decroux.
Qui était le maître.
C'était le maître en mime corporelle, qui n'est pas de la pantomime, qui n'était pas ce que faisait Marceau, qui n'était pas ce que faisait Lecoq, qui n'était pas... Tu vois, il y avait son école à lui. Et moi, je suis au cégep, tu vois, en sciences pures. Mon père, ma mère ne me voyaient pas pantoute faire du théâtre.
Mais toi, tu as le goût de faire du théâtre
pareil. Moi, je fais du théâtre depuis l'âge de... Tu sais, je veux faire du théâtre depuis l'âge de 16 ans.
Mais t'es en sciences pures.
Je suis en sciences pures, je suis bon à l'école. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des bonnes notes. Puis j'aime les sciences. Je continue d'aimer les sciences, d'ailleurs. Je lis encore des trucs sur des questions absolument...
Comme quoi, on est beaucoup moins dans des tiroirs qu'on pense?
Oui. Bien, en fait, la culture, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Enfin, à mon avis, c'est tout ce que fait l'homme peut devenir intéressant au niveau culturel. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer de tout ça parce que c'est la pensée qui cherche... à expliquer la vie, comme on essaie de le faire au théâtre, comme on essaie de le faire...
On peut l'expliquer, l'exprimer, la vivre.
Voilà, bon. Exactement. Donc, à partir de là, on se pointe chez Decroux. Moi, j'arrive là après avoir fini mon diplôme de cégep parce que mes parents voulaient pas que je quitte le Québec sans avoir un diplôme. Mon père est en Beau-Torieux, pauvre lui. Parce que finalement, je devenais pas ingénieur, médecin, avocat ou ce que tous les parents normaux souhaitaient que leurs enfants fassent.
La vie de saltimbanque, c'est pas payant.
Pantoute! Tu vas mourir de faim, etc. Comment tu vas faire? Je le sais pas, mais c'est ça que je veux faire. Et je suis parti. J'ai acheté un billet d'avion. Je suis parti pour Paris avec deux valises. Trop lourdes, évidemment. Crise de con.
Pas tellement indépendant de fortune.
Ah, justement. Oui, alors c'est ça. Ça, c'était assez comique. Enfin, comique. Je me suis mis de l'argent de côté parce que je travaillais comme étudiant, puis bon, etc. Puis j'avais, tu sais, je pense que j'avais 600 $, tu vois. Et je suis parti sans savoir quand je reviendrais. Je veux dire, je voulais aller là apprendre. Et donc, je me retrouve à Paris avec mes copains. Ils étaient allés là, eux, à peu près un an d'avance, comme je te disais, parce que mon année de cégep n'était pas terminée. Alors, j'arrive là en janvier. C'est humide comme le maudit. Et là, ils travaillent dans un petit théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre du Kaléidoscope. C'est près de la rue... c'est sur la rue Frédéric-Sauton. C'est comme à côté de la place Maubert Mutualité. Tu vois Notre-Dame de là. Bon. C'est une ancienne écurie, aménagée. Genre, imagine-toi un plus petit 4 sous, tu sais. 120 places, avec un petit café théâtre à côté qui s'appelle l'Absidiole, parce que, bon, t'es à côté de Notre-Dame, une abside, une absidiole, c'est ça. Fait que là, t'as Claude Saint-Denis qui joue Acte sans parole de Beckett avec un de mes copains qui est régisseur, puis il y a Jean-Michel Ribes dans le théâtre qui fait Je suis un steak. Une espèce de revue de variété avec Andrea Ferréol, Gérard Darmon, tout du monde qui sont devenus quelqu'un par la suite, mais qui étaient des jeunes comédiens. Et nous étions dans cette affaire-là. Donc, le soir, on travaillait là. Puis le jour, on allait chez Decroux prendre des cours. Alors, mes deux copains avaient terminé finalement les cours chez Decroux. Ils sont rentrés à Montréal, puis ils ont monté un truc qui s'appelle le Théâtre de Carton. D'ailleurs, on habitait dans une chambre de bonne à Troyes, dans le 16e arrondissement. C'était la chambre de bonne qui servait au... Je sais plus trop, il y avait une emmanchure gouvernement du Québec là-dedans. Je pense que la Boursière avait eu ça à un moment donné, puis finalement, il s'était établi, Claude et Lucie, là-bas. Et donc, il tournait. Puis donc, lui faisait ses spectacles de mime. Puis en fait, le propriétaire du théâtre écrivait du théâtre aussi. Il s'appelait... il travaillait chez Rochas, imagine-toi. Il était designer de présentation chez Rochas, les bouteilles, les trucs. C'était un gars qui avait vraiment une fibre artistique intéressante. Puis pour moi, c'était l'Europe comme on l'espérait. Là, c'est des gens qui étaient créatifs, qui étaient ouverts d'esprit, qui étaient intéressants. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, lui avait écrit un spectacle jeune public. Puis moi, j'étais parti en tournée avec ce spectacle-là, avec Claude Saint-Denis, Lucie Bertrand. Et moi-même. Alors, je faisais un personnage qui n'apparaissait pas, qui était une voix derrière, puis j'étais régisseur, je conduisais le bazou.
Ça commence comme ça.
Ça commence comme ça. Puis là, ben, je découvre mon métier. J'apprends à faire de la régie, c'est-à-dire à comprendre comment ça marche un spectacle. L'éclairage, le son, les comédiens, les textes, faut que tu. T'sais, puis je veux dire, bon, etc. Et chez Decroux. Alors là, ça, c'est tout à fait. C'est l'école avec une conception du maître, comme tu disais tout à l'heure, mais le maître à la 1850. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était extrêmement rigoureux, qui avait beaucoup d'humour, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais qui était un ogre. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te donnais à bouffer, il te bouffait carré. Si tu te donnais pas à bouffer, ce qui était mon cas, tu jouais au chat et à la souris avec lui, il adorait ça parce qu'il s'amusait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi, j'avais un père qui faisait des mots d'esprit, tu sais. Fait que j'étais habitué à ce genre d'affaires-là, puis je répondais à ce genre d'affaires-là. Il en faisait, lui. Et puis j'y répondais. Il adorait ça. On a eu bien du plaisir, tous les deux. Dans la classe, qui était dans le sous-sol de sa maison à Boulogne-Billancourt, au bout de la ligne de métro, c'était un sous-sol avec une cave, quoi, carrément, avec un espace où il rangeait ses légumes. Il y avait une porte. Puis, parmi tous les élèves qui étaient là, t'avais des boursiers, beaucoup de boursiers du Québec ou de... pas beaucoup de Québécois à ce moment-là. Il y en est venu après. Mais moi, quand moi j'étais là, t'avais beaucoup d'Américains. Puis les Américains se plaignaient qu'en fait, il fallait qu'ils se voient. Donc, ils avaient fait poser des miroirs, sauf sur la porte de son apprenti. Fait qu'on était trois devant la porte de l'apprenti, parce que dans notre esprit, quand t'es sur scène, t'as pas de miroir, tu peux pas te voir, faut que tu le sentes de l'intérieur. Il nous avait posé la question. Il y avait un Italien, il y avait moi, puis il y avait un Anglais qui faisait je sais pas combien de mètres de haut, là, tu sais. Et on était les trois devant ça, puis on s'entendait très bien, parce que, bon, une fois de temps en temps, t'allais voir dans le miroir où était ton corps, comment t'étais placé, puis tu le sentais de l'intérieur, puis t'exécutais les affaires. Et il avait trouvé ça sensé, mais il avait été obligé finalement de un peu répondre aux besoins de ses autres élèves qui demandaient de voir leur corps. Et on pouvait comprendre. Je veux dire, c'est une méthode, c'est chacun sa méthode. Eux, ils avaient besoin de le voir comme ça. Puis c'était assez rigoureux comme truc, là. Tu sais, je veux dire, pour lui, le corps était un clavier. Il fallait que tu en joues comme si tu jouais d'un instrument de musique. Donc, chacun des segments était relié à l'autre segment. Puis il fallait que tu puisses réussir à...
Et t'as passé combien de temps, là?
Deux ans.
On va avancer un peu. Qu'est-ce que tu fais après?
Bon, après, je reviens à Montréal. Je retrouve mes copains au Théâtre de Carton. Qui est une troupe de théâtre jeune public qui a duré une vingtaine d'années. Puis donc, ce qu'on fait là, on a monté un spectacle comme base du théâtre corporel pour les enfants, totalement surréaliste. On faisait des choses absolument étranges. C'est-à-dire que on racontait une histoire un peu à la manière de Sol et Goblet, tu vois. On s'était inspiré beaucoup, parce que c'est ce qu'on a vu dans notre enfance. Donc, c'était physique, c'était aussi... Il y avait du bruitage, il y avait des accessoires. On s'était réservé des plages d'improvisation. Puis ce qu'on demandait aux enfants à la fin du spectacle, c'est « Dessinez-nous ce que vous avez trouvé le meilleur moment du spectacle. » En même temps, on essayait d'obtenir des informations de la part des enfants, savoir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez compris. Écoute, on a reçu plein de trucs. Et c'était fabuleux, parce qu'il y a des choses qu'on avait carrément improvisées. Puis c'était des trucs qui marquaient. Fait que là, tu fais « OK, ça, on le garde. » Puis ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire? On a élaboré cette affaire-là. Bon, ça marchait du feu de Dieu.
Si je prends le point de vue de tes parents, tu réussissais à en vivre?
Ah non. Non, non, non.
Je pose la question, oui, ça sent très bien, mais...
Non, écoute, bon, à l'époque, les loyers étaient 62,5 $ par mois. Je réussissais à peu près à payer un loyer, right? Puis à manger, à peu près. Puis bon, l'été, bug. Les écoles sont fermées. Comment tu fais pour payer ton loyer? Fait que c'est là qu'on a commencé à faire de la rue. Alors, on a si tu veux, à partir de ce matériel-là, développer autre chose, des choses qu'on pouvait présenter en format 25, 30 minutes, par exemple, sur la page Jacques-Cartier, ou, etc., Square Phillips.
Et là, tu passes le chapeau pour vivre, là.
Ouais, j'ai pas passé le chapeau souvent, en fait. Oui, j'ai passé le chapeau un peu, puis j'étais pas très convaincu que c'était la bonne manière de faire la chose. C'est-à-dire que la mendicité, entre guillemets, pour faire accepter de l'art ou pour rétribuer de l'art, pour moi, c'était un truc qui marchait pas. Je veux dire, tu étais payé au cachet ou alors tu le faisais pas. Fait qu'on on a trouvé des expédients autrement. À l'époque, tu avais beaucoup d'événements, des festivals qui commençaient, des machins comme ça, qui avaient besoin de ce type de spectacle-là.
D'animation de rue.
C'est ça, de spectacle-là qui étaient des spectacles qui étaient fixes surtout. Enfin, nous, on faisait surtout des spectacles fixes. On n'a pas fait beaucoup de spectacles mobiles.
Donc, tu t'installes sur une rue, mais à un endroit précis.
À un endroit précis, et tu fais un spectacle. Donc, on a élaboré, on avait des formats d'une heure, par exemple. On faisait un show qui durait une heure. Puis l'hiver, finalement, on faisait aussi du spectacle dans les écoles. Puis cette affaire-là, bon, on s'est dit, shit, on va le continuer. Et les centres d'achat avaient besoin de spectacles particuliers pour faire mousser leur promotion, etc., etc. C'était les places publiques intérieures en hiver. Donc, on était là, puis on faisait des shows. Fait que, tu sais, anecdote, on arrive là, on fait un show qui dure une heure. On rentre, on s'installe, on fait le show, ça dure une heure. Puis là, le propriétaire du centre d'achat vient nous voir, il est en pétard. Mais oh, qu'est-ce qu'il y a? Le show est pas bon. Il dit non, il n'y a pas un chat dans
un magasin.
Les magasins sont tous devant votre maudit show. Oh, OK. Alors, bon, on est tout de suite, tu sais, j'ai dit, bon, si on vous faisait 3 fois 20 minutes, ça vous irait. Ouais, on peut essayer ça. Donc, on faisait 3 fois 20 minutes, puis donc, c'était 3 épisodes. Puis on disait aux gens, OK, premier épisode, revenez à telle heure, on fait le deuxième, puis ainsi de suite. Ils revenaient. Et on était connus, si tu veux, dans les centres d'achat des environs de Montréal, ou excentriques un peu. On travaillait...
Tu n'avais pas uniquement des talents de metteur en scène, de concepteur, tu avais des talents de producteur aussi. Hein?
Bien, il fallait, tu n'as pas le choix, tu es obligé de tout faire, tu sais. C'était... Puis on n'avait pas de subvention, on en a demandé après, mais... pour le théâtre de carton, mais on n'avait pas de subvention, fait qu'on se débrouille tout seul. Fallait qu'on fasse tout, des contrats, et donc, tout le zoo. Fait que là, tu commences, t'achètes une dactylo pour faire les contrats. Puis là, il faut que tu saches comment ça marche, un contrat. Puis etc. Fait qu'on a appris sur le tas tout un tas de trucs. Au point que, je veux dire, on s'est retrouvés à faire ce métier-là, puis à en vivre. Aussi étonnant que ça puisse paraître.
L'aventure de Michel Barrette. Donc, on t'a laissé au centre d'achat avec ton théâtre de carton. Et à un moment donné, tu vas graduer, si on veut, à autre chose que le théâtre de carton ou en carton.
Bien, en fait, oui, on a... le fait de travailler dans la rue, on était un peu en phase avec ce qui se passait en Europe à ce moment-là, dans les années 70. Tu as eu un grand courant. Qui a culminé, si tu veux, avec le ministre Jack Lang, qui était mandaté par le gouvernement Mitterrand pour faire des formes d'art populaires dans le premier sens du mot. Donc, le cirque traditionnel, le nouveau cirque et les arts de la rue ont été soutenus. Nous, ici au Québec, on était un peu dans la même mouvance, mais on n'avait pas ce soutien-là. Sauf que la plupart des événements, festivals et autres, avaient besoin de ce genre d'affaires-là. Puis il s'est trouvé que des affaires comme le Festival d'été de Longueuil, le comité organisateur des Jeux olympiques de 76, et etc., avait besoin de spectacles, puis nous, on avait des spectacles. Donc, avec Gilles Maheu, que j'avais rencontré justement chez De Croo, qui était allé chez Eugénio Barbeau au Danemark, est revenu, puis à un moment donné, il me dit, bon, on va monter une compagnie, on va faire des arts de la rue. Oui, pas de problème, certainement. Sauf qu'on peut pas être juste deux. C'est quoi? Pas de problème. On va te trouver d'autres mondes. Tu veux qu'on soit combien? Bien, 4-5. Ça fait qu'on a eu des copains, dont Robert Séguin, avec qui j'étais allé chez De Croo, et musiciens, etc. Ça fait que là, on avait un petit groupe, puis ça a vraiment super bien marché, nos affaires. On a monté toutes sortes de choses. Dans toutes sortes de directions, des trucs qui étaient carrément désopilants. On avait un numéro où, des gars en tutu, maquillés, tu vois, face plus ou moins blanche, avec les joues rosées et tout. Et
avec des préoccupations de contenus sociaux, politiques?
Pas toujours. Ouais. Quelquefois oui, quelquefois non. Ça dépendait des cas, ça dépendait de ce qui était proposé. Souvent, c'était plus du divertissement, tu vois. Puis à l'époque, effectivement, tu avais du théâtre engagé. Nous, on n'était pas nécessairement ni pour ni contre. On n'avait pas les moyens véritablement d'élaborer ce genre d'affaires-là. Puis tu n'avais surtout pas de demande. Donc, on aurait pu proposer ce genre d'affaires-là. Enfin, ce qu'on faisait, on essayait de le faire avec quand même un contenu. Ça racontait quelque chose, puis tu avais quand même des personnages, tu avais quand même des trucs. Bon, et à partir de ce moment-là, ça a fait que il s'est amorcé une espèce de mouvement. Donc, tu as eu plusieurs autres compagnies qui ont fait ça. Tu avais à la fois des amuseurs publics, qu'on appelait comme ça à l'époque, parce que c'était plus ou moins des buskers, des gens qui passaient le chapeau, puis tu avais des compagnies de théâtre de rue qui, elles, travaillaient plus au cachet, dans des événements ou machin comme ça. Puis arrive 84. 84, c'est le 400e de Québec. Moi, entre-temps, j'ai monté une affaire qui s'appelle l'Atelier Continu. On a pris une... Tu sais, t'as besoin d'un endroit pour un bureau, un endroit pour répéter, mettre tes accessoires, etc., etc. Donc, on avait trouvé une filière qui nous permettait, par exemple, de payer des loyers pour utiliser des locaux d'anciennes... des écoles désaffectées de la CECM. Puis bon, on loue un truc comme ça. Puis au bout de, je sais plus, un an, un peu plus, ils nous apprennent qu'ils vont nous flanquer dehors, mais qu'ils nous donnent la liste des écoles qui vont fermer pour qu'on puisse retrouver des locaux là-dedans. Fait que, OK, parfait. On fait le tour de ces écoles-là. Et là, on en trouve une en face du Parc Laurier, l'école Père Marquette. Puis là, ben, c'est l'école au complet, tu comprends-tu, qui veulent louer. Fait que là, moi, on va les voir. On dit, OK, on va prendre 3 locaux comme on avait dans l'autre école. Non, non, non. Tu loues tout ou tu loues rien? Et si moi, j'ai fait, bon, OK, je vais tout louer. Je reviens chez nous avec un bail, avec la CSCM, absolument, qui me coûte, je sais plus trop, quelque chose comme 50 000 $. Ma blonde veut me divorcer direct. Je la comprends. Je dis, mais non, non, attends un peu, j'ai un plan. Je savais, parce que dans le milieu, il n'y avait aucun... il n'y avait pas de locaux de répétition disponibles. Il n'y avait pas de locaux où tu pouvais créer. Fait que là, on avait une école au complet pour faire ça. Ça m'a pris une semaine, j'ai tout loué. Je te le dis.
À d'autres troupes?
À d'autres compagnies, je veux dire. On avait des salles de répétition. Le TNM venait répéter chez nous. Le Rideau Vert venait répéter chez nous. Brou s'est répété chez nous. En veux-tu, en v'là? Je veux dire, on servait tout le monde, right? C'était un espèce de Bauhaus, la patente. C'était complètement délirant dans mon esprit, mais j'étais sûr que ça pouvait donner un résultat, et ça a donné un résultat. Donc, tu avais là-dedans des photographes, des peintres, des sculpteurs, des musiciens, du théâtre, de la musique contemporaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les vilains pingouins répétaient dans un studio qu'il avait organisé en bas. Il y avait des rosts dans le fond du truc, fait qu'on avait colmaté un peu l'affaire. Puis il y avait une espèce de... une salle de tu sais, comme dans toutes les écoles. Et là, on est un peu coincé là-dedans. Puis je demande à mon chum Robert qui... Bon, Robert, faudrait qu'on trouve un moyen d'utiliser cette salle-là. Fait qu'on savait qu'il y avait des compagnies, par exemple, qui faisaient des, tu sais, qui répétaient des spectacles, puis qui avaient besoin d'une salle pour faire une espèce de première pour inviter, tu sais, des gens qui allaient vendre l'affaire. Fait qu'on avait, on s'était dit, bon, on va pouvoir faire ça. Lui, il avait une idée en tête. Il dit, ça va être bien mieux. On va aller chercher la LNI. Il est allé chercher la LNI, right? Fait que là, on était poignés pour faire une salle de la LNI. Ils l'ont fait eux-mêmes là-dedans. Mais là, on avait un problème, c'est qu'il y avait des toilettes, mais elles n'étaient pas fonctionnelles. OK? Il fallait rendre les toilettes fonctionnelles. On n'avait pas une maudite scène. Fait que là, pendant que j'étais secrétaire général de la corporation, moi, tu comprends-tu? Pendant que j'étais pas là, j'étais parti, je ne sais plus trop, en tournée quelque part. Ils ont décidé qu'en fait, ils allaient arrêter de payer le loyer pour mettre l'argent pour avantager notre client qui était la LNI, pour faire des toilettes pour le, tu sais, dans lesquelles le public pourrait... Fait que là, quand je suis revenu, j'ai fait, mais vous êtes tombé sur la tête, ça va pas la tête. Je disais, c'est correct de faire la LNI, là, mais je disais, il faut payer notre loyer, il faut trouver un autre moyen pour financer l'affaire. Ça a duré 6 ans comme problématique. La CECM a fini par nous flanquer dehors, mais moi, j'ai joué au chat et la souris avec leur avocat pendant 6 ans. Puis au bout de la ligne, ben, je veux dire, on a quand même réussi à avoir de l'argent du ministère de la Culture pour faire de ça une salle de spectacle qui était correcte. OK? Même ça, on n'a pas réussi à récupérer 30 000 $ pour leur payer le truc. Fait qu'on leur a payé un petit peu, puis on essayait de payer un petit peu, puis, tu sais, je veux dire, finalement, ils sont tannés. Ils nous ont foutus dehors pour mettre les autre chose qui était dans une école sur la rue Boucher pour finalement vendre cette affaire-là un truc d'habitation modique.
C'est devenu des condos?
C'est devenu un truc d'habitation modique, tu vois. Donc, oui, c'est de l'habitation maintenant. Et là, ce qu'on faisait dans ce quartier-là avec l'atelier continu, c'est-à-dire que c'était des ateliers qui étaient ouverts, tu vois. Tous les artistes qui étaient là pouvaient donner des ateliers de ce qu'ils voulaient. Photographie, etc., nananana. Puis on faisait, à ce moment-là, les fêtes de la Saint-Jean à partir de 78. Le gouvernement Lévesque a décidé que les fêtes nationales allaient être quelque chose d'important, puis allaient donner de l'argent aux différents quartiers, petites villes, etc., pour faire des trucs comme ça. Fait que nous, on avait proposé des projets, fait qu'on avait un parc en face, il y avait des rues, on fermait les rues, on faisait des spectacles là-dedans, ça marchait du feu de Dieu. Puis, bien, je veux dire, l'atelier continu était l'espèce de point d'ancrage. Quand ils faisaient des élections, ils nous louaient la salle. Quand ils avaient besoin de faire des réunions de quoi que ce soit, ils nous louaient les salles, etc., etc. Donc, c'était un truc qui tournait, mais qui tournait pas assez pour dire qu'on aurait pu repayer 30 000 $ de dette. Bon, alors, au bout de ce jeu-là, au milieu de ce jeu-là, arrive 84. Il y a un mec avec qui j'ai travaillé au Floralie à Montréal en 80. On avait une troupe que j'avais montée, 36 comédiens, acrobates, musiciens, etc. On faisait l'animation des Floralies. On a monté pour faire ça, je sais pas combien de numéros, une trentaine de numéros pendant tout l'été. On jouait 93 jours de suite sans arrêt. Les fleurs, ça pousse tous les jours, tu sais, puis ça poigne, c'est vrai. Donc, on avait deux équipes qui tournaient. Et donc, à partir de ça, si tu veux, ce programmateur-là est venu me voir, parce que lui, il était à Québec 84. Il me dit, tu peux monter la programmation des arts de la rue là-bas? Ouais, OK. Fait que là, je pars, m'en vais à Québec. J'habite à Québec. Et les premiers dossiers qui me passent entre les mains, c'est des affaires. Un truc qui s'appelle le Cirque du Soleil. Je fais, ah, ça, c'est intéressant. On pourrait programmer ça parce qu'en fait, on programmait des spectacles dans le Vieux-Port de Québec, Bassin-Louise, qui avait été un peu réaménagé. Il y avait jeté à terre tout un tas de trucs. Il y avait du charbon là-dedans, en tout cas, toutes sortes de trucs, machin. Bon. Et finalement, il avait réaménagé ça, puis il voulait donner une autre valeur à l'affaire. Puis c'était là que le tout allait se faire. Donc, il y avait une scène flottante, il y avait des scènes d'art de la rue qui étaient là, et je faisais la programmation de ça. finalement, l'organisation avait dit « Non, 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 le Cirque du Soleil, c'est fait pour faire des petites villes, puis ils viendront pas dans les grands centres et tout. » Je fais « c'est pas une bonne idée, c'est une grave erreur. » Bref, l'affaire continue. Puis, la façon dont ils avaient organisé leur flûte, les gens devaient acheter un passeport. Et ça leur donnait accès à tout un tas de trucs. Mais ils n'ont pas vendu assez de passeports, puis là, ils étaient coincés. Il fallait qu'il y ait du monde sur le terrain. Je veux dire, les arts de la rue, ça attirait du monde, mais c'était pas suffisant pour dire que, tu sais, on allait, ça allait déferler, etc. Parce que tu avais eu le directeur des communications, un génie, qui avait annoncé à grand renfort de publicité dans des entrevues qu'il donnait que, écoute, il allait y avoir tellement de monde qui allait faire des stationnements à Drummondville puis qui allait mettre les gens dans des navettes pour les faire venir à Québec. Les, je me disais, n'importe quel Montréalais fait « Voyons, ça va pas la tête » ou n'importe quel Drummondvillois fait « Voyons, donc, ça va pas la tête ». Donc, finalement, ça a créé tout un tas de problématiques. Donc, et résultat, on change un peu l'orientation puis on amène le Cirque du Soleil là. Au Cirque du Soleil, c'est tous mes copains, copines de la rue qui sont là, que j'ai engagés souvent dans d'autres trucs. Et ils sont là, je suis bien content de les voir. Puis ça fait un succès absolument monstre. Et évidemment, après ça, ils vont venir à Montréal et ainsi de suite. Et the rest is history.
Oui, ça a été fondé après ça à Gaspé. Puis,
Non, avant, à Gaspé. Okay. Ça, le premier show était à Gaspé, puis il y a eu une tempête.
Et c'est après, toi, que tu arrives?
Oui, oui. Moi, j'arrive après, quelques semaines après, en fait. À Gaspé, il y avait une tempête. Le mât principal avait été tordu, en tout cas, bref. Et, bon, ça a un peu retardé leur truc, mais finalement, les spectacles étaient des bons spectacles. C'était le fun, c'était vraiment sympathique. C'était totalement autre chose. Mais évidemment, créé à partir du côté pétillant et intéressant et créatif de la rue dans un cadre qui était le cirque, qui n'était pas du tout comme ça. Enfin, la tradition de cirque qu'on connaissait n'était pas du tout comme ça. C'était beaucoup plus européen. Il y a beaucoup de cirques comme ça qui s'étaient créés en Europe. Et d'ailleurs, La Liberté avait vu ce qui s'était fait en Europe. La Liberté, c'était un cracheur de feu, donc... Il savait ce que c'était de la rue. Il avait monté lui-même un festival qui était le Festival des amuseurs publics de Baie-Saint-Paul, qui était tout de suite après le Festival d'été. Fait que la plupart des compagnies qui allaient au Festival d'été, dont nous, on allait ensuite à Baie-Saint-Paul. C'était beaucoup plus économique pour lui, etc. Bon, puis tout le monde se retrouvait, on avait bien du plaisir. Non, non, non. Bon. Alors, à la fin de cette année-là, 84, on est en septembre, Québec 84 ferme, après moult péripéties, et moi, je reviens à Montréal, je veux remettre ma compagnie sur pied, puis continuer de fonctionner. Et à l'atelier continu, on avait monté un atelier d'acrobatie pour les comédiens, donc les Normand Brathwaite et autres comédiens qui voulaient faire ce genre de choses-là faisaient partie de ces cours-là. Il y avait 60 personnes qui s'étaient inscrites à ces cours-là. Et quand je suis parti à Québec, enfin, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir l'endroit où on donnait ces cours-là, qui était le Centre Immaculée Conception, où tu avais le centre d'entraînement de l'équipe de gymnastique du Canada qui s'entraînait là. Puis nos entraîneurs, c'était ces athlètes-là, tu comprends? Fait qu'il y avait un fit parfait, ça marchait très bien. Puis c'était très couru parce que, encore une fois, dans notre image, dans notre idée de créer avec le corps des personnages, l'acrobatie, la maîtrise de ces techniques-là de cirque faisait partie du même droit fil. Donc, il y avait là, si tu veux, tout un tas de monde, dont... les gens qui étaient allés au Cirque du Soleil. Et là, ils revenaient là et ils allaient s'installer au Centre Immaculée Conception dans ce qui sera appelé l'École de cirque, puis l'École nationale de cirque, et qui est maintenant à côté du Cirque du Soleil, dans la à côté de... enfin, à Saint-Michel. Et moi, je me suis retrouvé là, finalement... un échange du genre OK, il y a une équipe de piste entraînée, c'est des jeunes, ils savent pas jouer, etc. Veux-tu venir les coacher pour qu'ils sachent jouer? Oui, pas de problème. Sauf que je veux faire partie de ça parce que moi, je veux me remettre en état, en forme. Je travaillais dans un bureau pendant un an, j'avais plus la forme que je devais avoir. Et à un moment donné, il me dit, c'est Guy Caron qui était le directeur artistique à ce moment-là, il me dit, on cherche un maître de piste, ça te tenterait pas de faire un machin comme ça? Je dis, j'ai aucune idée de ce que c'est, raconte-moi. Il me raconte, je fais, ouais, on peut bien essayer. Et voilà, je me suis retrouvé à partir en tournée avec le Cirque du Soleil dans la saison 84-85.
Dans son aventure, Michel Barrette se retrouve avec le Cirque du Soleil comme maître de piste. Dans cette espèce de maître de cérémonie, traditionnellement dans le cirque, c'est il ça. Présente les numéros,
voilà.
Etc.
Voilà.
Tu te débrouilles bien dans ce numéro-là?
Ben oui, en fait, ce qu'on voulait, parce que c'est ça.
Tu fais le boss de la piste, puis dans la vie, t'es un peu boss. Ça doit bien aller.
Ça allait. Surtout que, en fait, ce que je voulais faire avec ça, c'était pas aller là où tout le monde était. Essayer de faire quelque chose de différent. Donc, faire du blabla pour présenter les numéros, très peu pour moi. Mais essayer de trouver une manière de le faire qui impliquait une situation, tu sais, je veux dire, quelque chose qui est... On essayait de concevoir les spectacles comme une continuité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arrêt entre les numéros, l'éclairage, les effets visuels, les personnages qui étaient là-dedans faisaient qu'en fait, tu avais une continuité. Tu n'avais pas l'impression que le numéro qui était terminé tombait par terre.
Mais ça, c'est devenu la signature du Cirque du Soleil.
Ben oui, exactement. Donc, écoute, j'étais là... par exemple, je faisais juste introduire les gens. Je faisais du physique, encore une fois, en tout cas. Je parlais pas beaucoup. Quand il fallait parler, je parlais. Je travaillais avec les clowns, tu vois. Je faisais le straight man pour les clowns. Fait qu'il fallait que je parle à ce moment-là pour faire des choses. Mais ce qu'on voulait, c'était créer des situations comiques ou poétiques, ou, etc., qui allaient permettre justement que le tissu...
De faire les liens aussi.
Voilà, exactement. Que le tissu du lien tienne du début à la fin. Donc, on essayait d'inventer une, entre guillemets, dramatique. Donc, comme une manière de faire que le spectacle soit... tienne...
Il y a une unité, hein?
Une unité au travers, c'est ça. Parce que tu revoyais les mêmes personnages. Ils me revoyaient moi. J'étais là, tu sais, le show durait 2 heures, j'étais là 2 heures de temps. Enfin, pas là présent pendant tous les numéros, mais je veux dire, j'étais présent pendant tous les moments où il fallait que je le sois. Puis à certains moments donnés, dans les numéros, comme il disait, je faisais le personnage en découpe. Tu sais, j'étais près du décor, Puis je savais que j'étais pas éclairé, puis je voulais pas être éclairé, je voulais juste être en découpe. Puis j'étais là, puis j'étais en attitude. Puis je réagissais, si tu veux, au numéro, un numéro très poétique. Donc j'étais, tu sais, je faisais carrément du mime corporel dans le fond, en arrière. Et les gens trouvaient ça très beau, ça accompagnait. Puis c'était un fait, c'était ça que je voulais, tu comprends? Je disais rien, mais c'était quelque chose qui était qui allait en harmonie avec le numéro. Bon. Et quand les clowns... Ce qui veut dire que le personnage avait différentes facettes. Et les autres personnages, l'équipe de piste que j'avais formée, ils étaient exactement dans cette direction-là. Ils venaient... On utilisait des fonctions qui étaient incontournables pour en faire des fonctions dramatiques. Donc, il se passait quelque chose parmi l'équipe de piste quand ils arrivaient.
C'était quoi ta relation ou le rôle de la liberté à ce moment-là?
Bien, ils étaient producteurs. Il était producteur. Il venait voir les spectacles en répétition, puis il disait ce qu'il pensait. Mais nous, on créait les numéros. Je veux dire, on avait zéro technique au départ, puis on l'a développé à mesure qu'on s'en allait là-dedans avec des entraîneurs qui avaient eu de l'expérience, qui savaient comment faire un certain nombre de choses, puis on apprenait, puis on le faisait. Mais la chose qui était différente de ce qui se passait ailleurs, c'est que nous autres, on savait vendre ça parce qu'on avait fait de la rue. La rue, il faut que tu vendes ta salade. Le public va te zapper en deux secondes s'il ne trouve pas ça intéressant. Donc, quand tu es sur une scène, c'est la même chose. Il faut que tu saches vendre ta salade, et c'est ça qu'on a fait. On a appris ça dans la rue, puis on a transporté ça au cirque. Puis il y a beaucoup de gens qui ont fait ensuite du cabaret, puis des choses comme ça, avec des numéros de cirque. Ils ont aussi transmis cette affaire-là. Mais c'est un courant qui a été très, très large. Je veux dire, en Europe, le nouveau cirque, ou le cirque qu'ils appellent contemporain,
je ne veux pas enlever le mérite à personne, mais on pense beaucoup que la liberté a tout créé, qu'il a inventé ça ça fait tache d'huile dans le monde. Il était le reflet d'un courant mondial qui s'en allait autour de cette façon de faire du spectacle.
Absolument, absolument. Ouais. On était dans un courant principal, puis on avait notre interprétation de la chose, ceci dit, mais... Puis bon, il y avait une équipe, là, je veux dire, tu sais, Guy Caron était le directeur artistique, c'est lui qui a fait certaines des mises en scène, Franco Dragon, certaines autres, moi, etc. Moi, j'étais directeur artistique en tournée, je prenais le show dans l'état où il était. Je me souviendrai toujours de l'anecdote comique. On faisait un show de 2 heures. Là, je monte trois doigts, tu comprends-tu? Puis c'était la blague entre nous. Ah oui, on a un show de 2 heures, tu sais. Alors moi, j'ai réussi à faire passer le show de 2 heures avec 3 doigts à un show de 2 heures avec 2 doigts sans couper aucun numéro, en contractant, puis en faisant que tout ça, ça avait beaucoup de rythme. Et ce qui faisait que le public était conquis. Je veux dire, on allait n'importe où, ça marchait.
T'allais où en tournée, là?
Bien, on allait surtout au Canada à ce moment-là. On a fait toutes sortes de villes. Bon, à Québec, c'était plein à chaque fois grave. Les gens, il fallait que tu achètes tes billets d'avance parce qu'il n'y avait pas de place. À Montréal, c'était très, très souvent très, très plein. Sherbrooke, Saint-Sauveur, dans la Bouette, oh là là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ottawa, Toronto, première année. On arrive là et, en fait, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, tu comprends-tu? Puis, je veux dire, on a fait à peu près 20 % de la salle. L'année d'ensuite, on a fait 40 % de la salle. L'année d'après, c'était plein dur. Là, ils ont eu, en fait, ils ont compris. Parce que, finalement, le truc, c'est... Mais on entretenait le spectacle. Ma job, moi, c'était de l'entretenir, de faire que ce spectacle-là, puis cette équipe-là, l'équipe de piste en particulier, soit, tu sais,
est-ce que c'était
parfait.
le seul spectacle du cirque à ce moment-là? Après
oui.
ça, ils ont multiplié les
spectacles. Oui, oui.
À ce moment-là, c'était le seul
oui,
spectacle.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. La manière de faire de l'argent, pour eux, ça a été effectivement de, sortir du Canada... Parce que, bon, même à Vancouver, c'était loin, puis c'était compliqué, puis ça ne rapportait pas autant d'argent que ça. Alors, on est parti au festival de Los Angeles avec le matériel et tout le truc. Et on a su par la suite qu'en fait, on n'avait pas d'argent pour revenir. C'était un coup de dé. Mais ils étaient confiants, puis ils ont bien fait, dans le spectacle. Je veux dire, on arrive à Los Angeles, on est à côté de l'hôtel de ville de Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville qui est étrange. Je veux dire, le centre-ville de Los Angeles, c'est des grands terrains vagues, vides, avec des industries en décrépitude, des édifices en décrépitude. Puis un terrain, le terrain où on était, c'était, il y avait des clôtures de 3 mètres de haut à peu près tout le tour. Puis c'était du caillou. On est là, puis on fait notre show. Le soir de la première, bon, on est dans le cadre d'un festival, donc c'est sûr que le premier soir, tu auras une salle pleine parce qu'ils s'arrangent pour la remplir avec tous les billets donnés, tout ça. Le soir de la première, on est là, au théâtre, tu viens toujours regarder par le trou de la entre les rideaux. Je regarde là, puis en fait, je vois assis devant nous toutes les vedettes qu'on voyait dans les téléromans à Montréal, en anglais, en français, etc. Tu fais « J.R. » tout ce monde-là, Martin Landau et autres, tu sais. Et on est là, puis on se dit « on fait le show, ça, the talk of the town, du jour au lendemain. » Le lendemain matin, je reviens sur le terrain. Je suis un des rares dans la distribution qui parle anglais. Puis là, je me retrouve avec le micro de E.T. sous le nez. Là, j'ai fait « Oh, shit! »
C'est Entertainment Tonight. Là.
C'est ça. L'émission qui est encore à l'affiche aujourd'hui, qui couvre le top du spectacle, les grosses vedettes.
Tu passes là-dessus, t'as un succès.
Ben c'est ça. Ça veut dire que... Et là, je me dis « Et tabarnouche, quand ma mère va voir ça! » Ce qui fut le cas. Et à partir de ce moment-là, we never look back, comme diraient les Américains. Et on a, le reste, c'est de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les choses ont complètement changé. C'est devenu, au Québec, un succès très important. Aux États-Unis, un grand succès. Puis mondialement aussi, ça s'est su, là, tu sais.
T'as été combien de temps avec ce Cirque du Soleil?
5 ans.
Comment ça se fait que t'es pas millionnaire, toi?
On était là à l'époque héroïque. On faisait des petits salaires. L'argent est arrivé à partir de ce moment-là. Et moi, je suis parti. Idiot! Mais en fait, c'est que la chose a beaucoup changé. On faisait un travail d'artisan, tu vois. C'est ça qui me plaît, moi. Et la façon dont les choses se déroulaient, là, à ce moment-là, ça devenait un big business avec une pensée big business. Et ça me convenait pas, mais pas du tout. Et je fais la mise en scène du spectacle de 89, puis je suis parti. Parce que ça correspondait pas à ma façon de penser, ma façon d'être. Puis j'ai été pressurisé par cette espèce d'organisation-là où il fallait absolument être sûr de ton coup, puis gagner bien de l'argent. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une création, calvaire. On peut pas savoir. Celle qu'on a menée à bien puis qui nous a fait, sésame dans le monde entier, c'est un travail sur lequel on a mis 3 ans de boulot. J'ai travaillé avec cette équipe de piste-là pendant 3 ans à peaufiner un truc. Par exemple, il y a 2 choses que tu fais pas dans le métier. C'est faire suivre un numéro comique par un autre numéro comique, OK? Et, faire avoir un numéro qui était comique, qui faisait 8-10 minutes, puis faire suivre ça par un autre numéro comique de 10-12. Alors, ce petit numéro comique-là, c'était en fait le numéro à l'entracte. Moi, j'arrivais là, puis je devais dire, bien, on va passer à l'entracte. Je dis, jamais je vais faire ça. Je dis, non. C'est pas intéressant. Je veux dire, t'as pas besoin de moi pour faire ça. T'as fait juste à fermer les lumières. Fait que là, on s'est dit, bon, on va commencer par faire autre... On va créer quelque chose d'autre avec ça. Parti avec un jongleur hollandais qui était allumé. Je dis, OK, tu vas venir m'apporter le micro, puis tu vas mettre le pied sur le fil, puis là, moi, je vais m'éloigner, puis on va s'arranger pour que le micro se détache, puis là, je vais essayer de parler, puis on est parti de cette situation-là. Et là, l'équipe de piste arrivait parce que la piste était pleine de mousse. Parce qu'avant, tu avais Denis Lacombe qui faisait son numéro très connu qui s'appelle le clown mécanique, où en fait, il se flanquait des tartes à la crème dans la figure avec toutes sortes d'objets, tu vois. Puis bon, c'était délirant, c'était drôle, les gens adoraient ça, mais il y avait de la mousse partout. Les maudits clowns, c'est bien, bien...
Salissant.
C'est salissant. Bon. Alors là, ce qu'on devait faire, c'était nettoyer ça. Puis là, c'est parti de là. Puis ça a créé un numéro plus comique que celui de Denis et qui durait 12 minutes. Et les gens en voulaient encore. On aurait pu continuer. Mais à un moment donné, j'ai fait, ben là, ça va, là, tu sais. Puis là, ben, écoute, on allait jusqu'à... Enfin, l'idée, c'était que j'essayais de dire, OK, on va à l'entracte. Mais il y avait toutes sortes d'affaires qui se mettaient dans mon chemin. Je pouvais pas le dire. Puis ça déclenchait le rire des gens. Puis là, j'étais en tabarnouche. J'allais voir les gens pour qu'ils arrêtent de rire, tu sais, avec l'autorité du chef de piste. C'était pire encore. Ils riaient encore plus. Fait que là, je leur disais, OK, viens ici. J'avais un de la gang du chef de l'équipe de piste. Viens ici. Il y avait un petit squeegee, là. Pas squeegee, mais un petit...
Fusil à eau?
Pas fusil à eau, mais, tu sais, un contenant là, qui envoie de la... Pour nettoyer, tu sais, t'as ça, là, t'envoies de l'eau ou quelque chose comme ça.
Pour nettoyer, là.
C'est ça. Tu sais, comment t'appelles ça? Un petit jet de machin. Je fais, OK, t'arroses cette personne-là avec ça. Pire, tu sais, comment ça rit partout ailleurs. Fait que là, on fait, OK, prends le seau, puis jette de l'eau. Ça arrive. Puis là, il y avait un boyau. Fait, prends le boyau, viens ici. Donne-moi le boyau. Fait que là, je menaçais les gens de. Puis là, on arrêtait là. Mais à un moment donné, il fallait aller encore plus loin parce que les gens le voulaient. On est à Los Angeles, encore une fois, cette fois-là. Puis la façon dont le chapiteau est fait, t'as comme une première section, puis t'as un corridor entre la première puis la deuxième section des gradins qui est en haut. Là, t'as une femme qui est là, qui se lève, qui fait Make my day, elle me défie. Fait que là, je fais Viens ici, toi. Avec le boyau. Puis ça dépendait des jours. Des fois, on avait de la pression, des fois, on n'en avait pas. Fait que là, je me place, puis je vise, je tire sur la gâchette, le jet d'eau part, puis il monte par-dessus toute la première section, puis il atterrit direct dans le front. Right? Et là, je tiens. Le roar qu'il y a eu dans la salle, a ameuté tout le monde qui était sur le terrain. Ils sont tous venus voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Là, je le tenais, puis je l'ai arrêté. Puis là, j'ai... OK, entr'acte. J'ai demandé au personnel, j'ai dit, allez me chercher cette fille. Faut qu'on s'excuse, tu sais. Elle arrive là, elle était éclatée de rire, elle était tellement contente. Elle avait un truc en soie. Je suis désolé, on va vous l'envoyer. Non. On lui a donné un T-shirt, on lui a donné, tu sais. Écoute. Donc, on pouvait faire des choses comme ça avec ce métier.
Tu as fini par quitter le Cirque du Soleil. Puis, dis-moi un peu ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton travail maintenant?
Bien, ce genre de réaction-là. Le salaire du comédien, c'est le plaisir du spectateur. Si tu le vois, si tu le lis dans sa figure. Plaisir de toutes sortes de natures. Ça peut être un plaisir esthétique, ça peut être un plaisir émotionnel, ça peut être un plaisir comique. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je crée des spectacles avec de la musique. Je travaille avec l'Orchestre symphonique de Montréal, par exemple, avec Kent Nagano. On a fait une adaptation de Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai pris Alice au Pays des Merveilles, puis j'ai adapté l'affaire. On a monté le show avec comédiens, danseurs, marionnettistes, artistes de cirque. Fallait qu'on fasse de la magie.
Contrairement à un paquet de monde autour de ce milieu-là, je te connais pas de folle envie de richesse et de célébrité.
Non.
Pourquoi?
Bon, je gagne bien ma vie, j'ai pas de problème. Je veux dire, je cherche pas à... Je veux pas être une vedette, nécessairement. Moi, je veux me promener dans la rue tranquille, tu sais, puis pas être poursuivi par les paparazzi ou whatever. Et je suis un artisan, moi. Je veux dire, je fais ça comme un artisan. Je travaille dans mon bureau tranquille, dans les salles de répétition. T'élabore des projets. Où il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. On m'appelle pour ça, tu sais. Ils veulent faire un spectacle de musique contemporaine pointue. Je veux dire, de la musique qui n'est pas tonale, qui n'est pas... tu comprends-tu? Puis ils me demandent, peux-tu...
Mettre ça en scène.
Ouais, peux-tu nous aider à faire ça? Oui, on peut concevoir ça. Par exemple, les JMC nous appellent. Jeunesse musicale du Canada. Ils voulaient faire un spectacle avec un thème écologique. Fait que là, moi, je veux pas me promener avec des pancartes. On peut-tu réfléchir une minute? Oui. Et là, on est avec une compagnie avec qui je travaille depuis longtemps qui s'appelle Sixstrom, qui est un ensemble à percussion, l'ensemble à percussion le plus important et le plus intéressant de Montréal. Et donc, avec les trois personnes à qui on a monté ça à l'intérieur du truc, On a monté un spectacle pour le jeune public où on leur fait entendre la musique contemporaine hard, Xenakis, etc. Et ça marche.
Ah, se servant toujours de la créativité, de l'étonnement.
Voilà, exactement.
T'es pas à la veille de prendre ta retraite, Michel?
J'espère que la santé va me suivre le plus longtemps possible, parce que j'ai trop de fun à faire ce que je fais. Et c'est très plaisant parce que un projet en amène un autre. Tu vois, je suis en train de faire autre chose de cette nature-là actuellement. J'ai terminé un truc comme ça vendredi dernier. Puis là, j'en commence un mercredi. Même type de truc, musique contemporaine. Cette fois, c'est de la musique électronique. Puis c'est un enfant qui a un ami imaginaire, qui rêve dans son grenier, puis qui joue avec des jouets. Mais des jouets qui donnent des sons, qui font des trucs. Enfin, bref, voilà.
Ta vie est comme ça aussi. Hein?
Ma vie est comme ça. J'ai deux petits-enfants avec qui j'ai un fun noir et qui me permet finalement de rester imaginatif. Parce que ils en veulent, tu sais.
Avec toi, ils vont en avoir.
Oui, un peu.
Michel Barrette, merci beaucoup.
Au plaisir.
Si ça vous dit, il y aura une prochaine aventure dans une semaine. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.